Les grands titres de ce 14 février, le gouvernement fédéral en Australie présentera son rapport annuel Close the Gap qui vise à combler l'écart entre la communauté aborigène et le reste de l'Australie sur les questions de santé, d'emploi et d'éducation. Le Premier ministre canadien est reçu à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump. Une avalanche à Tignes en France tue 4 personnes. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull va présenter son rapport annuel Closing the Gap, un rapport qui vise à combler l'écart entre la communauté aborigène et le reste de la population australienne sur les questions de santé, d'éducation et d'emploi. Le gouvernement veut atteindre les objectifs.
Our intention is to redesign the targets that are expiring in partnership with our first Australians. Now in the last 6 months, I believe we have built a new relationship with Congress. In the year ahead, I want us to strengthen that further. I'll be asking members of the renewed Indigenous Advisory Council to work with the Redfern Alliance so that a broad range of views are heard and brought to bear on improving not only what we do, but the way we do it.
C'était le Premier ministre Malcolm Turnbull. Jackie Huggins, coprésidente du Congrès national du peuple aborigène, s'est exprimée elle aussi.
I expect that you, Prime Minister, and most in this House, will be somewhat frustrated and disappointed at the slow pace of change and the continuation of our First Peoples' poor health and well-being. How could you not be? Given the statistics in front of you. The negatives override the positives.
Voilà, c'était Jackie Huggins, coprésidente du Congrès national du peuple aborigène. Et puis l'ancien Premier ministre Tony Abbott critique certains aspects de la politique autochtone de Malcolm Turnbull. Il regrette que le Premier ministre n'a pas continué sa pratique de passer une semaine au sein de la communauté aborigène dans les régions isolées du pays comme il le faisait lui-même.
I think it is a little disappointing that there is no annual governmental pilgrimage to remote Aboriginal Australia anymore.
Voilà, c'était Tony Abbott. Le gouvernement fédéral n'a pas le soutien de l'équipe de Nick Xenophon au Sénat pour faire voter ses amendements sur les subventions aux frais de garde d'enfants et aux réductions de paiement de l'aide sociale. La sénatrice indépendante Jackie Lambie a aussi rejeté le projet du gouvernement. Nick Xenophon a déclaré qu'il préfère voir une augmentation du prélèvement Medicare pour couvrir les frais additionnels pour financer le NIDS, National Disability Insurance Scheme.
I think there is a problem. There are some measures within the package of measures that we're not against, but overall, that trade-off with family tax benefits, notwithstanding the government did make some efforts to make up for some of the getting rid of the supplements, end-of-year supplements, with a $20 a fortnight payment, that still would leave a lot of families out of pocket to the tune of hundreds of dollars, and we think that is not the best way to fund the childcare package.
Voilà, le sénateur Nick Xenophon, le vice-premier ministre Barnaby Joyce demande aux personnes qui critiquent le projet du gouvernement de présenter des alternatives.
We understand that some of these decisions are hard. We understand that sometimes people are unhappy with them. We get that. We wished we didn't have to make them, but we have to try and turn this budget around. Now, if Senator Lambie and Senator Xenophon do not believe in a budget that is back under control, then they have to start explaining to the Australian people what their measures would be and what their answer will be to their children and their grandchildren, because if we don't turn this round, then the standard of living in the future will be markedly poorer.
Voilà, le vice-premier ministre Barnaby Joyce, avertissement que les feux de brousse pourraient ressurgir en Nouvelle-Galles du Sud à la fin de la semaine. Quelques 30 maisons ont été détruites depuis le week-end dernier. Les autorités ne connaissent pas l'ampleur du désastre pour l'instant. Il y avait 60 feux qui brûlaient hier lundi soir, dont 19 hors de contrôle. Au sud-est du Queensland, la canicule a pris fin avec un changement de température et des tempêtes. Quelques 20 000 maisons à Ipswich étaient sans électricité hier soir. Il y a eu de la grêle et des pluies torrentielles et quelques dégâts à noter aussi. Les tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord, condamnés par la ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop, une menace à la sécurité régionale, a-t-elle déclaré à la veille de sa visite en Corée du Sud cette semaine.
This latest ballistic missile launch is more destabilizing and dangerous behavior on the part of North Korea, and we join with other nations, including the United States, China, South Korea, and Japan, in condemning this provocative act, for it is a threat to regional and global security.
La ministre australienne des Affaires étrangères. Le président américain Donald Trump a reçu le premier ministre canadien Justin Trudeau à la Maison-Blanche. Ils ont discuté entre autres le rôle des femmes au sein de la population active, surtout ces femmes qui gèrent des entreprises. On écoute Donald Trump.
Women, as you know, and I can say that from my past life, I had so many women executives that were phenomenal. Really helped me a great deal in business, so that was really fantastic. They play a tremendously important role, women, in our economy. Women are the primary source of income in 40% of American households.
Voilà, c'était Donald Trump, Justin Trudeau, s'est prononcé sur le rôle des femmes dans des rôles de leadership.
Whenever I sit down with a woman executive, I know that she has had to overcome significant barriers that exist, and therefore is likely to have greater insight into help reduce those barriers for others, but also be a formidable contributor to the success of the business and her economy. So
Retour maintenant sur cette rencontre Trudeau-Trump avec Anne-Marie Capomaccio pour Radio France Internationale.
Nous n'avons pas appris grand-chose sur l'avenir de l'accord de libre-échange nord-américain. Ce que nous savons est que Donald Trump veut le renégocier et que Justin Trudeau ne peut se permettre de remettre en question des échanges essentiels pour le Canada, ainsi qu'il l'a répété.
Pour 35 États américains, le Canada est le premier marché d'exportation et notre économie profite largement des 2 milliards de dollars d'échanges bilatéraux qui ont lieu chaque jour qui passe.
Des chiffres, mais aucune perspective dans ces paroles, aucun détail sur les discussions qui ont eu lieu avant la conférence de presse à huis clos. Idem chez Donald Trump qui en a profité pour cibler une fois de plus le voisin mexicain.
We have a very outstanding trade relationship.
Nous avons une relation commerciale extraordinaire avec le Canada. Nous allons faire des ajustements. C'est une situation bien moins grave que ce qui se passe à la frontière sud. Au sud, le commerce n'est pas équitable pour les États-Unis.
Sur la politique migratoire, l'autre sujet brûlant du moment, les deux hommes ne peuvent avoir des politiques plus différentes. Le Canadien, qui a accueilli 40 000 réfugiés l'an dernier, veut être, je cite Justin Trudeau, un exemple positif pour le monde. Donald Trump, sans commenter les propos de son invité, a réaffirmé sa philosophie, l'entrée des étrangers met les États-Unis en danger.
Anne-Marie Capomaccio pour RFI. Plus de 11 morts et des dizaines de personnes blessées lors d'une attaque à la bombe à Lahore au Pakistan. La branche pakistanaise des talibans a revendiqué l'attentat contre ces centaines de gens qui manifestaient contre les nouvelles règles des ventes de produits pharmaceutiques. Selon un rapport du Atlantic Council et un centre de recherche américain à Washington, la Russie et la Syrie sont en train de cibler les populations civiles à Alep, y compris les hôpitaux, dans leur bombardement de cette région. La Russie et la Syrie rejettent les conclusions du rapport. Frédéric Hoff est un ancien conseiller américain sur la transition du pouvoir en Syrie et il déclare que la Russie et la Syrie ont falsifié les informations.
It stands as an authoritative account of deliberate criminality and conscious efforts to cover it up. It is also, inevitably, if not intentionally, a testament of the extent to which our efforts to change American policy fell short. Breaking Aleppo is a chronicle of the methods employed by Russia and the Assad regime, with Iran supporting from the wings, to achieve military victory through terror.
Frédéric Hoff, ancien conseiller américain sur la transition du pouvoir en Syrie. Le Hamas a élu un nouveau chef pour remplacer Ismaël Haniyeh dans le territoire palestinien du Gaza. Il s'appelle Yahya Sinouar et vient de la ligne dure du Hamas. Son portrait avec Muriel Paradon pour RFI.
Yahya Sinwar, décrit comme un extrémiste par la presse israélienne, prend donc la tête du Hamas à Gaza au terme d'élections internes qui ont duré plusieurs mois. Âgé de 55 ans, Sinwar est né dans le camp de réfugiés de Khan Younes dans le sud du territoire palestinien. Diplômé en langue arabe, il devient l'un des fondateurs des brigades Ezdin el-Qassam, la branche militaire du Hamas, et crée la section Majd, une unité de renseignement chargée notamment de débusquer les Palestiniens qui collaboreraient avec Israël. Arrêté en 1988 par les Israéliens, qui l'accuse d'activité terroriste, Yahya Sinwar est condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie. Mais après 22 ans passés derrière les barreaux, il est relâché avec 1 000 d'autres prisonniers en échange de la libération du soldat Shalit détenu durant 5 ans par le Hamas. Accueilli en héros dans la bande de Gaza en 2011, Yahya Sinwar gagne en influence jusqu'à devenir aujourd'hui le chef du Hamas dans le territoire palestinien.
Muriel Paradon pour RFI. 4 morts lors d'une avalanche en France à Tignes. Les stations de ski sont remplies en ce moment à cause des vacances scolaires. Cyril Anceau est chef du CRS Alpes-Albertville. On l'écoute sur RFI.
Un groupe qui voluait en surf, en snowboard. Pour aborder cette pente, ce groupe a dû effectuer une traversée à l'horizontale, donc déchausser les surfs évoluaient à pied. Et ce serait à ce moment que l'avalanche se serait déclenchée.
Alors ces surfeurs avaient des détecteurs sur eux, mais ça n'a pas suffi pour les sauver.
Effectivement, ce groupe était équipé du matériel de sécurité, des détecteurs de victimes d'avalanche. Ils ont pu être localisés rapidement au niveau de la zone de dépôt de l'avalanche. Malheureusement, ils étaient enfouis sous plusieurs mètres de neige. Donc pour creuser, les dégager de cette épaisseur du manteau neigeux, il faut du temps. Et par ailleurs, les pressions qui sont exercées par plusieurs mètres de neige sur des corps enfouis occasionnent souvent des décès. Et on les a retrouvés décédés dès qu'ils ont été extraits.
Cyril Anceau du CRS Alpes-Albertville. Coup d'œil météo ce mardi en Australie. Adélaïde maximale de 29 degrés. Alice Springs 37, Cairns 36, Brisbane 29, Canberra 28, Hobart 22, Perth 27, Darwin 31, Melbourne 21 et à Sydney maximale de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce 14 février. Le gouvernement fédéral en Australie présentera son rapport annuel Close the Gap qui vise à combler l'écart entre la communauté aborigène et le reste de l'Australie sur les questions de santé, d'emploi et d'éducation. Et puis le Premier ministre canadien est reçu à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench